en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La clôture de la quatrième année polaire internationale organisée par le sénateur Christian Gaudin et le professeur Édouard Barre, rassemblant scientifiques et politiques les 14 et 15 mai 2009 au Sénat et au Collège de France, a également donné la parole à plusieurs académiciens. Catherine Bréchignac, Éric Orsenna, Pierre Corvol, Claude Lorius ou encore Yvon Lemao ont ainsi été invités à présenter les différentes tables rondes organisées autour de la clôture de la quatrième année polaire internationale ou bien parler de leur attachement aux zones polaires. Vous allez ainsi pouvoir entendre l'intervention d'Éric Orsenna de l'Académie française parler de son expérience en tant que navigateur dans le pôle sud. Il revient notamment sur ses différents voyages auxquels il a participé et qui l'ont profondément marqué par l'aspect pédagogique que cela lui a apporté. Claude Lorius, président du comité français de l'Académie des sciences pour l'organisation de la quatrième année polaire internationale, rappelle quant à lui que l'Académie des sciences avait lancé l'année géophysique internationale en 1957. Cet ensemble de recherches ont notamment permis une meilleure connaissance de la magnétosphère, du champ magnétique et de faire les premières mesures de la teneur en gaz de l'atmosphère. Yvon Lemao, membre de l'Académie des sciences, parle quant à lui de l'interface qui existe entre la biodiversité et le changement climatique. Les régions polaires sont parmi les milieux les plus sensibles de la planète Terre et sont ainsi les meilleurs indicateurs des enjeux environnementaux. Les scientifiques ne jouent pas seulement un rôle en tant que support technique et logistique lors de cette quatrième année polaire, ils permettent également de faire des avancées majeures. Tout de suite, retrouvez Éric Orsenna.
Quand Isabelle Autissier m'a proposé d'aller au sud, en Antarctique, en bateau, c'était un grand projet, puisque c'était un projet avec un cargo de 60 mètres, et il y aurait comme une sorte d'arche de Noé, des créateurs, il y avait des sculpteurs, des musiciens, etc., qui se verraient réunir. Mais c'était un bateau de 50 mètres. Et puis, au fur et à mesure des années, le budget étant diminué, le bateau diminuait. Donc, à chaque fois, elle me demandait, es-tu toujours d'accord pour partir ? Donc, je disais oui, le cœur de plus en plus serré. Et puis, un mois de juillet, elle m'a dit, écoute, voilà, nous partons, j'ai un bateau, es-tu toujours d'accord ? J'ai dit oui. Et le bateau avait beaucoup, beaucoup diminué. Il n'était plus à moteur, il était à voile et il mesurait 15 mètres. Es-tu toujours d'accord ? J'ai dit oui, mais je dois vous dire que j'ai fait tous les examens médicaux possibles pour essayer de me trouver une bonne raison de partir. Et les check-up, d'une certaine manière, hélas, ont été positifs. On m'a dit, tu peux, mon coco, tout à fait partir. Donc, je n'avais plus d'excuses, donc je suis parti. Et inutile de vous dire que j'avais déjà navigué quelques petites fois dans l'archipel du Cap Horn, mais quand vous quittez les terres de l'île Navarino là-bas et que vous quittez le port le plus au sud, qui est dire Puerto Toro, qui est un petit port que je vous recommande, notamment pour la qualité de ses crabes à très longues pattes, les Sentoja, avec un petit vin, c'est pas mauvais. Quand vous partez, le cœur vous sert. Parce que quand vous avez un bateau de ce type, qui est un bateau de 15 mètres, en alu, extrêmement long, qui est une sorte d'annexe du BHV, tellement il y a de boulons, notamment, puisqu'il faut compter sur vos propres forces, vous vous dites que vous allez passer quelques temps dans l'incertitude. Pourquoi ? Parce que notre routeur, cher routeur, nous disait, eh bien sûr, écoutez, sur deux jours, les prévisions de climato, ça va. Le troisième jour, point d'interrogation. Et après, on ne sait pas. Et comme quand même c'est un piège à dépression, on se demandait. Donc on est parti avec 30 nœuds et puis voilà, après ça a été plus incertain. Ce que je voulais vous dire, pour ne pas prendre trop de votre temps, c'est à quel point ce voyage est un voyage pédagogique. C'est un voyage qui apprend. Et de tous les voyages que j'ai faits, Dieu sait si j'ai fait des voyages, c'est de loin et de très loin le voyage qui m'a le plus appris dans toutes les composantes, je dirais, de ma petite personne. Premièrement, quand vous descendez et que vous franchissez le 60e parallèle, quand vous êtes juriste, qui est mon cas, vous avez une véritable émotion de vous dire que vous êtes enfin dans une zone sans frontières. Il y a des revendications, mais enfin dans une communauté international. L'inverse du lotus bleu quand il y a les concessions. C'est l'inverse. Vous êtes dans un endroit international. Et c'est une vraie émotion. Vous continuez encore un petit peu. Et vous voyez que l'eau devient plus froide, brutalement, de 2-3 degrés. Qu'est-ce qui se passe donc quand vous avez quelques petites notions de courant? Eh bien, vous comprenez. Et vous continuez, et vous continuez. Il y avait un ornithologue avec nous. Malheureux, c'était son premier voyage. Alors imaginez ce que c'est, premier voyage sur un bateau, où est-ce qu'il fait? Il passe le Drake. Pauvre petit loup. On lui avait demandé de compter, comme ils font, vous savez, ils se mettent là, le bateau, ils regardent un quart, toutes les 10 minutes, etc. Donc il avait un crayon, un carnet, des jumelles et un seau. Et ce pauvre petit n'a pas arrêté de noter et de gerber. Sans arrêt. Pendant 7 semaines. On aurait pu penser, mais même les petits machins là, quand on se met les patchs là, zéro, il n'a pas arrêté. Avec une vaillance inouïe, et il n'en avait pas marre des oiseaux ni de la mer, puisqu'après il a obtenu un poste au nord de Géorgie du Sud, un endroit qui s'appelle, sans beaucoup d'imagination, Bird Island. Il y avait lui, un Anglais, et que des oiseaux tout autour. Et en ce moment, j'ai reçu un mail il y a 3 jours, parce qu'il ne sait plus quoi faire après. Comment réinsérer ce type-là? Donc, si vous avez des possibilités, vous me dites. C'est un type, je vous assure, que quelles que soient les conditions, je ne dirais pas extrêmes, parce que ça serait idéologique, mais enfin, difficile, même avec un seau à la main gauche, il continue à travailler à la main droite. Donc, bravo ce monsieur. Vous continuez vos leçons, et vous arrivez devant une masse bleue, et vous en apprenez sur les glaciers. Qu'est-ce que c'est qu'un iceberg bleu? Donc vous apprenez les pressions, l'oxygène, etc. Donc la leçon continue. Donc comme quelqu'un comme moi qui ignore absolument tout de la science, mais qui est ivre de curiosité, on m'apprenait, voilà comment ça se passe, en dessous, la pression, il n'y a plus d'oxygène, tout ça, et c'est bleu. Bleu. Et puis brutalement, vous voyez cette première île, qui est l'île de l'éléphant, et vous débarquez en Zodiac. Et vous débarquez où dans Zodiac? Dans le lieu même de la plus belle des histoires vraies, jamais vécu par des êtres humains. Et Dieu sait si depuis l'âge où ma maman me berçait en me racontant des histoires, Dieu sait si je collectionne les histoires, l'histoire de Shackleton est l'histoire la plus complète qu'on puisse imaginer, avec tous ces épisodes. Vraiment, c'est pas plus belle, c'est plus dur la vie, mais enfin avec des résultats. Quand vous pouvez imaginer, dans une première étape, le bateau pris par les glaces, au bout d'un moment, le bateau écrasé en mer de Weddell. Première étape. À soi seul, cette partie est une histoire inouïe. Et ça continue. Ils prennent une chaloupe et ils vont essayer de gagner la terre libre. Deuxième étape. Ils arrivent sur l'île de l'éléphant, à l'endroit même où on a débarqué. Non sans mal, parce qu'il y a des tas de petits grésils partout. C'est vraiment du sport. Donc, autre étape. Ils rafistolent plus ou moins une chaloupe et ils partent. Quelques-uns d'entre eux partent. Ils partent où? C'est hallucinant. Une chaloupe ouverte et ils vont en Géorgie. Imaginez ce que c'est quand vous avez la carte. Imaginez ce que c'est de partir de l'île de l'éléphant et de gagner avec une chaloupe ouverte de 7 mètres, de gagner la Géorgie. Ensuite, Shackleton et toute son équipe essayent vous connaissez l'histoire, de remonter un peu tout le monde. Donc, c'est essayer de trouver quelqu'un qui veut bien venir. On est en pleine guerre, c'est Verdun. On est en plein Verdun. Verdun, pas Verdun allégorique, c'est Verdun. On est en 16-17. Donc, ils trouvent quelqu'un. À la fin, un bateau chilien. Et je dois vous dire que on avait pris avec Isabelle l'idée de suivre exactement la route du bateau chilien quand on est arrivé sur l'île de l'éléphant. Et dans ces endroits-là où on est quand même livré à soi-même, l'émotion que nous avions avec nos jumelles en regardant l'île de l'éléphant et l'émotion qui a été celle de Shackleton en se demandant s'ils étaient morts. Ils les avaient abandonnés pour encore un autre hivernage. Et puis ils voient une silhouette, une deuxième silhouette, et toutes les silhouettes sauvées. C'est une histoire incroyable, et la fin de l'histoire est quand même inouïe aussi, parce que Il revient, en Angleterre, il revient partir, etc. Et il va mourir où ? Évidemment, d'une crise cardiaque ou en Géorgie, l'endroit où il est arrivé. Donc il y a tout là-dedans. C'est Ulysse, c'est Homère, c'est tout ce qu'on peut imaginer de plus beau. Cette histoire-là, encore une fois, est la plus belle. Et avoir eu ce privilège immense d'être dans le lieu même des histoires, dans la mine des histoires, pour moi, je suis changé. C'est-à-dire que j'ai vu à quel point, d'une certaine manière, les histoires vraies étaient la plus belle. Et ça n'a fait qu'en rajouter sur mon envie d'en connaître un peu plus dans la science. Parce que quel plus beau réservoir d'histoire que la science. Donc, si vraiment, c'est un moment particulièrement émouvant. On a continué. Il faisait beau. On a dit un petit bonjour à la base Esperanza Argentine. Et comme il faisait beau, on a un peu louvoyé entre les icebergs en mer de Weddell. Et comme il faisait vraiment beau, on est descendu jusqu'où ? Jusqu'à l'île Snow de Nordenskjöld. Et donc, cet endroit-là, autre histoire, qui est une histoire inouïe, puisque évidemment, c'est l'histoire de la tectonique, de la dérive des continents, de la recherche des fossiles, de tout ça, à une époque où on ne connaissait pas la validité de cette thèse. Il se trouve que je dois mon vrai nom à Julien Gracq. Je m'appelle Arnoux, Raymond Barre, quand je présentais ma thèse en même temps que je publiais mon premier roman, m'a dit « prenez un pseudonyme ». Donc j'ai pris Orsena, la première phase du rivage des Sirtes. Et donc je suis devenu vraiment ami, proche, filialement ami avec Julien Gracq. Et la dernière fois que je l'ai vu, 6 mois avant sa mort, il m'a raconté cette grande période de basculement. Il dit « quand je finis mes études de normal et de l'agrégation d'histoire géo, le monde qu'on m'avait appris, le monde physique qu'on m'avait appris, était stable, immobile. En 3 ans, avec la tectonique, tout basculait. Donc, premier basculement physique, deuxième basculement, 39, la guerre. J'étais né dans le stable, je basculais dans le mouvant. Donc, je me rappelais aussi ces questions-là. Alors, évidemment, je vous passerai la visite dans les petites bases, dont la base Vernadsky qui guette le taux d'ozone. C'est inouï, ils sont 9, il y a 5 scientifiques, Charentaise, que ça veut dire, on est là, on en reste quelques jours. Ils font de la vodka, ce qui est quand même la plus mauvaise vodka au monde. Enfin, comme c'est par 66 Sud, elle vous paraît bonne. Et puis, bon, je ne parlerai pas non plus de Charcot, mais l'émotion que c'est de tous ces noms, chacun des noms est une mine d'histoire, une mine d'émotion, une mine de vaillance. Donc, par respect... Quand vous allez au premier hivernage de Charcot, il y a 2 places. Donc on savait qu'il y avait une place où c'était Amar et Charcot, et on s'est mis juste à côté. Et puis on a monté sur une sorte de promontoire où il regardait un peu ce qui se passait en dessous. Et on a imaginé, on était à l'endroit même où il était. Et je ne suis pas totalement animiste, un peu, mais pas complètement. Et c'est vrai qu'on se disait ce qu'il voyait. Dans cette pénombre, dans ces craquements, dans ces attaques d'escouade, on se disait qu'est-ce qu'il a pu penser à ce moment-là, d'avoir entraîné tous ces gens-là. Comment a-t-il pu continuer à les faire travailler en plein hiver, si long hiver ? Comment gérer les équipes ? Comment faire des fêtes pour... Il y a des photos incroyables où on les fait défiler, etc. Donc respect, mais respect pour ces gens. Si je suis revenu avec un mot qui m'a hanté depuis pour tous ces gens de respect, parce que nous on y va hein, avec les 3 couches, les filles, machin, le musto, la purna, tout ça, donc et de temps en temps il fait froid. C'est vrai que dans le bateau d'Isabelle, elle m'avait garanti 15 degrés, il y avait 5 degrés quand on naviguait, parce qu'il y avait un tuyau, il fallait choisir d'avoir la baume ou le tuyau. Donc on préférait la baume, donc il n'y avait pas le tuyau, donc il n'y avait pas d'aération, donc il y avait 5 degrés. Et quand on était arrêté, il y avait 12 degrés. Elle disait, tu vois, il fait chaud. Parce qu'Isabelle, bon, c'est du sérieux. Et donc, pour vous dire le respect pour tous ces gens-là, ce que ça voulait dire. Donc nous, on allait en plus dans des zones à peu près cartographiées. Mais se dire que, c'était il y a 3 ans, on est dans des zones qui ne sont pas encore totalement cartographiées, je veux dire, c'est l'émotion, parce que quand on navigue comme ça, en louvoyant dans des zones qui ne sont pas complètement précisées, imaginez eux qui étaient ceux qui faisaient les cartes. Donc, respect, salut, immense salut à ce courage géographique. J'ai vu là-bas, enfin, en débarquant, j'ai vu cette formidable force, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est face à cet immense continent ? Qu'est-ce qu'on est ? Rien, évidemment. Mais on voit la fragilité même aussi de ce continent, cette articulation entre la force et la faiblesse. Il se trouve que je me passionne pour la botanique. J'ai présidé pendant un long moment l'école du paysage à Versailles. Donc, j'avais un peu travaillé sur la question des lichens et la question des mousses. Et quand on voit, vous le savez, vous marchez sur un lichen, le dit lichen met 60 ou 70 ans pour retrouver un équilibre interne, une vie à peu près normale. Donc, cette fragilité-là aussi, c'est une pédagogie. Et vous voyez cette articulation entre la force et la faiblesse. Force démesurée, vous n'êtes rien, et la faiblesse. Et quand le vent se lève, je ne vous dis rien. Simplement, nous avons eu beaucoup de chance parce que l'anémomètre n'a jamais dépassé 55 nœuds, ce qui est déjà de l'air. Et à l'endroit même où nous étions, l'année d'après, ils ont eu 100 nœuds. Alors, ceux qui font du bateau ici savent que ça, c'est du sérieux. Alors, pour conclure, je voudrais vous dire que les pôles... Alors, je ne connais pas le Nord, donc s'il y a une mission qui veut bien me prendre comme stagiaire, je suis prêt à partir, comme vous l'avez compris. Mais le Sud, je ne connais pas non plus, mais juste à la frange, c'est un lieu de pédagogie, un lieu d'enseignement sur les valeurs fondamentales qui sont le respect, qui sont l'interdisciplinarité, qui sont cette articulation entre la force et les faiblesses. C'est un lieu de pédagogie sans égal. Alors, je voudrais dire à tous les représentants ici présents que si vous voulez un coup de main pour la pédagogie et notamment pour expliquer aux enfants ce qui se passe là, je suis à votre disposition. J'ai travaillé sur la grammaire. J'ai réussi, pardon de ma fierté, mais enfin, c'est vrai, de vendre 150 000 exemplaires d'un livre sur le subjonctif. Je pense que sur le pôle, on peut faire mieux et les droits seraient pour vous. Donc, c'est une première proposition. La deuxième proposition est peut-être moins facile, mais je voudrais que ces années durent. D'abord parce que l'idée de quitter cette terre fragile m'est de plus en plus insupportable, mais je parle de l'idée d'année au sens année polaire. C'est-à-dire qu'enfin, on se mette ensemble. Enfin, tous les savoirs convergent, même les non-savoirs des curieux, comme je suis. Comme je dis avec mes amis de l'Académie des sciences avec qui je travaille de plus en plus, Éric sait rien, mais il sait raconter. Nous, on sait, mais on raconte moins bien qu'Éric. Donc, unissons-nous. Donc, s'il y a des choses que nous pouvons faire ensemble pour que ces années durent, que ces années se multiplient et qu'on considère que être spécialiste, c'est la moindre des choses. Connaître son métier, c'est la moindre des choses. Mais la spécialité ne suffit pas. Quand la spécialité est jugée comme suffisante, on voit ce qui se passe. Regardez les finances. Merci.
Il m'a semblé qu'il était bon de rappeler un peu le contexte de l'année géophysique internationale. Je sais bien qu'il y a une évolution des carrières, des thèmes, tout ça, mais je crois que l'année géophysique internationale, en tout cas pour l'Antarctique, ça a vraiment été la découverte d'un monde dont on n'a pas fini d'exploiter les ressources, non pas en termes économiques, mais en termes intellectuels. Donc nous voilà partis. Une bonne partie d'entre nous partant de la France pour aller jusqu'en Antarctique. Vous imaginez un long voyage dans un bateau qui n'était pas vraiment confortable. Alors juste pour faire le raccord, cette année polaire est marquée par le fait vraiment qu'il y a des moyens logistiques importants, tels que des brise-glaces, bien sûr, qui n'existaient pas à l'époque. Et la chose supplémentaire, peut-être, c'est qu'à bord de ces brise-glaces, il va y avoir plusieurs équipes internationales. Aucune opération menée ne peut l'être par un seul pays si l'on veut avoir le logo de l'année polaire internationale. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais vous voyez, en 50 ans, on a changé. Et puis l'autre exemple, bien sûr, je ne pouvais pas éviter de parler des bases. C'est là que j'ai passé un an avec deux compagnons, donc à quelques centaines de kilomètres de la base du Mont d'Urville, isolés, je dirais, pendant un an avec pas mal de problèmes. Mais pour moi, ça a été le début d'une carrière. Et j'ai attrapé le virus là-bas, bien qu'on dise que, en fait, le virus, on l'a attrapé quand on est revenu dans le monde civilisé, on était tous malades. Mais enfin, bon, le virus intellectuel était là. Et juste pour vous donner, vous savez tous, bien sûr, qu'une des contributions importantes de la France dans cette année polaire internationale, c'est l'installation d'une station Concordia au cœur de l'Antarctique. Et vous avez à gauche la partie qui est celle actuelle et qui a conduit à des forages, à des études de l'atmosphère. Et à droite, ce qui annonce le futur de ce site qui est riche en possibilités, c'est-à-dire un programme d'études du monde, un programme d'astronomie avec, comme vous l'avez dit hier, la planète Terre, ma foi, maintenant, elle s'envole vers l'espace. Donc, vous voyez, les choses ont bien changé, beaucoup de facilités, mais ça reste toujours une aventure d'aller dans ces pays. Ce que je voudrais revenir un petit peu, c'est justement sur cette année géophysique. C'est quand même l'époque où on a compris qu'il y avait une magnétosphère, qu'il y avait un champ magnétique, qu'on expliquait les aurores. Et pour moi, l'idée qui en est restée là-dedans, c'est que ce champ magnétique, il crée autour de la Terre un bouclier qui la protège. Et c'est donc très haut dans l'espace, mais à l'intérieur de ce bouclier, c'est nous, les humains, qui sommes responsables de l'état de l'environnement. Il y a 50 ans, on ne parlait pas d'environnement, c'est très clair. Mais au fil des campagnes, cette notion est devenue très sensible et très visible. Alors, bon, j'ai choisi deux, trois petits trucs. Alors, c'est toujours bien de citer un prix Nobel. Il s'appelle, dans ce cas-là, Paul Crutzen. Et donc, forcément, dans cette présentation, on va parler d'un sujet qui, moi, me préoccupe, en tout cas, et qui, je pense, va préoccuper de plus en plus de gens, et qui s'appelle l'Anthropocène. L'Anthropocène, en gros, c'est le moment où l'homme est devenu le facteur le plus important dans l'évolution de l'environnement de notre Terre. Et bien sûr, pour fonder... Donc, quand même, le fondement de cet anthropocène, c'est quand même les choses qui ont été découvertes dans les glaces. S'il y a un seul paramètre qui est capable d'intégrer les activités de notre société, c'est le gaz carbonique. Vous brûlez une forêt, vous faites tourner vos moteurs, vous allumez le bouton, tout ça, on dégage du CO2 dans l'atmosphère. Il n'y a pas que le CO2, mais je dirais que c'est un paramètre qui intègre complètement l'ensemble des activités humaines. Et ce paramètre, eh bien, on va trouver qu'il va influencer ce qui se passe dans l'atmosphère, dans les océans, les sols, la biodiversité. On ne va pas trop parler aujourd'hui des conditions de vie des humains. Mais c'est tout des thèmes, je crois, qu'on va avoir la chance aujourd'hui d'entendre des gens qui mènent des recherches sur ces domaines. On va s'enrichir. J'attire votre attention sur ces petites flèches rouges. Une chose marquante de l'année géophysique internationale, c'est qu'on a fait les premières mesures du gaz. Quand je dis on, c'est sûrement pas moi. Mais on a commencé à faire des mesures. Avant, on n'avait aucune idée de ce que c'était que la teneur en gaz de l'atmosphère, en gaz à effet de serre notamment, au cours du temps. Mais si vous voulez, c'est un petit peu remarquable et on voit que ces mesures qui ont commencé à 50 ans, eh bien, l'enregistrement qu'il y a dans la glace nous montre vraiment qu'il y a un changement et que ce changement, l'une des formes les plus importantes de ce changement dans l'immédiat, c'est le réchauffement climatique. Alors, climat et environnement, là, ce n'est pas en quelques minutes que je vais vous dire quelles sont les pistes pour faire. Vous jetez quand même un petit coup d'œil. En gros, je pense que ce qui est en jour... D'abord, vous voyez les lumières du monde. Hein. Donc, vous voyez les gens qui vont dégager du CO2. Plus il y a de lumière, plus les pays... Alors, vous constaterez effectivement que dans l'hémisphère sud, mais il n'y en a pas beaucoup, que dans l'hémisphère nord, y compris, bien sûr, en Europe, États-Unis, ainsi de suite, et maintenant en Chine, les lumières sont nombreuses et donc elles symbolisent les sources d'émissions des gaz à effet de serre. Alors en jaune, là, bon, je ne vais pas lire tout ça, là, mais c'est simplement pour vous dire que ça, on peut faire quelque chose facilement. Et en ce qui nous concerne ici, je pense que moi, je suis très heureux que le Collège de France ait créé ses chaires. On a besoin de faire de la recherche, d'étudier ça. On manquait un peu de support, je crois, dans l'enseignement de ces domaines. Je parlerai d'éducation, les enfants, mais aussi les adultes, nous-mêmes, parce que ce n'est pas très facile de changer de façon de vivre. Pour le rouge, et on ne va pas en discuter, c'est là où moi j'ai un certain pessimisme, c'est-à-dire que ça va être très dur pour l'homme de changer de comportement et de construire une autre vie, et notamment une gouvernance internationale. On sait très bien, et l'exemple du CO2 est frappant, qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut en France, c'est bien, mais que tant qu'on n'aura pas une gouvernance internationale dans ce domaine, et je le dis à propos du CO2, mais il est bien évident que c'est vrai d'une façon générale pour tous les problèmes d'environnement, bon, il faut arriver à ça. Alors je dois dire que, une des fiertés de ceux qui étaient au début, c'est pas que nous, les jeunes chercheurs qui étions là, avons été très, très efficaces, mais ce qui est remarquable, je crois, c'est le succès des recherches qui ont conduit les politiques à porter ce qu'on peut appeler le traité sur l'Antarctique. Alors, bon, ce traité, il vit toujours. Pour combien de temps ? Comme tout traité, il sera peut-être remis sur la table. Et hier, ceux qui étaient à la réunion ont bien sûr entendu M. Rocard, qui a parlé de son rôle d'ambassadeur des régions polaires pour essayer de créer, notamment en Arctique, parce que c'est très difficile, et je ne vais pas commenter plus en détail, mais c'est quelque chose vers lequel il faut tendre, ce traité, une organisation internationale qui aille au-delà des intérêts, bien sûr, des individus, mais surtout des intérêts nationaux, parce que ce sont les grandes puissances qui gouvernent, en fait, le comportement des humains sur la planète. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai entendu des choses très... qui me font plaisir. J'ai cru comprendre qu'il y aurait un rebond après l'actuelle année polaire internationale, que beaucoup de gens ont pris conscience qu'on n'a pas encore épuisé tout ce que l'on peut faire à partir des régions polaires, celles qui sont très loin de toutes les activités humaines et qui pourtant nous retracent l'histoire de la dégradation de notre environnement. Donc moi, j'espère que les responsables, effectivement, pourront faire que l'on va continuer à s'intéresser aux régions polaires. Je vous remercie. Voilà, bonne journée à tous.
Selon la volonté des organisateurs, cet exposé cet après-midi va porter sur l'interface entre la biodiversité et le changement climatique, où, comme vous l'avez bien compris, les régions polaires sont, comme par ailleurs les récifs coralliens, parmi les milieux les plus sensibles de notre planète, et donc les meilleurs indicateurs des enjeux. Et en quelque sorte, les scientifiques ont le privilège, en étudiant ces régions, d'alerter, et on l'a bien vu d'ailleurs au départ, en utilisant les carottes de glace, sur ces enjeux majeurs pour les générations futures. Alors, je serai très bref, mais en introduction, avec la session de cet après-midi, cette table ronde qui va essentiellement porté sur les résultats obtenus, sur les avancées dans le cadre de l'année polaire. Je voudrais compléter en abordant quelques sujets qui, à mes yeux, sont essentiels et qui nécessitent un effort particulier. Et en tant que scientifique, je voudrais rendre hommage à tous les ingénieurs, techniciens, sans lesquels il n'y aurait pas ces avancées. Je n'ai pas choisi au hasard, évidemment, cette photographie de Patrice Godon qui est en charge de la logistique, car elle conditionne, évidemment, le succès de nos opérations, au-delà, d'ailleurs, bien sûr, de l'année polaire. Pour les campagnes océanographiques, bien sûr. Et je crois qu'une des particularités des sujets de recherche menés dans le cadre de l'Institut polaire, je crois que c'est vraiment une particularité au niveau international, c'est que nous abordons, à travers la biodiversité, des sujets qui sont plus proches, si vous voulez, par rapport à nos préoccupations immédiates, à première vue, changement climatique, d'interrogations, d'enjeux biomédicaux. Et c'est le cas de ces travaux de l'équipe de Lyon, qui portent sur le métabolisme du tissu adipeux en faisant appel à des outils de biologie moléculaire. Lors de ma présentation initiale d'introduction de l'année polaire au Sénat, j'avais oublié d'en parler, et c'était une erreur. C'était une erreur parce que l'écologie de demain, ce sera une écologie des mécanismes. Et nous avons besoin de tous les outils, nous avons besoin de tous les équipements, y compris dans nos approches de la biodiversité. Car comment pourrait-on anticiper les conséquences du changement climatique sur la biodiversité? Et c'est le lien avec le biomédical, avec tous les outils de la biologie moléculaire et cellulaire, si dans le même temps, on n'essaie pas de comprendre quelles sont les limites d'adaptation des organismes vivants au changement. En même temps, on l'a vu avec la protéine associée à la conservation des poissons, on peut valoriser cette approche de la biodiversité en faisant des découvertes d'intérêt biomédical ou biotechnologique. Et ce travail, d'ailleurs, a été récompensé par un cristal du CNRS, et ce n'est pas le premier cristal du CNRS. Je crois que la communauté des ingénieurs qui s'occupent de logistique ou de recherche, puisque Mireille Racurte est ingénieure de recherche et a vraiment une activité de chercheur, ce n'est pas le premier cristal du CNRS. C'est aussi le moyen pour moi de citer au passage le rôle majeur du CNRS en parallèle avec l'IPEV, dans ses travaux. Et je terminerai par en considérant les travaux de deux autres ingénieurs dans un domaine qui est celui de l'approche de la biodiversité à travers les nouveaux outils. Vous êtes tous témoins des développements extraordinaires de la microélectronique, de la micro-informatique. J'étais en Terre Adélie, j'hivernais à cette époque-là, en 1972, quand ont été posées les premières balises Argos qui ont permis à cette époque-là de suivre la dérive des icebergs au large de Terre Adélie. C'était une première. C'était un rêve à cette époque-là. Un rêve que de dire un jour on pourra suivre les déplacements des animaux. Le laboratoire de Chizé a été le premier, je crois Françoise Gaille y reviendra, en réalisant la première étude sur des grands albatros en utilisant ces technologies spatiales associées à une microélectronique de miniaturisation. Mais ce sujet s'est considérablement développé. Et donc je présente ici, parce que c'est aussi, ce n'est pas un chercheur ni un ingénieur, c'est un ingénieur, il n'est pas statutaire, il est sur un contrat déterminé, et il vient, dans le cadre d'une collaboration entre les équipes françaises et Monaco, il vient de contribuer à un travail dont j'ai envie de vous parler, car il est complémentaire de ce dont il s'agira par la suite. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de suivre les individus d'une population, car nous sommes confrontés, nous, en tant que biologistes, au problème qui est que nous devons utiliser des techniques de suivi pour le vivant qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le vivant. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas évidemment d'introduire un biais, et cela me permet aussi d'aborder la question éthique. Cette colonie ici de Manchot-Adélie, je l'ai découverte pour la première fois en fin 1971, en arrivant en Terra Delhi, on m'a dit « c'est la colonie d'études de Manchot à Delhi, elle était quasiment vide ». Du fait du stress, de la capture des oiseaux et de l'effet du bagage. Mais cet effet du bagage, on ne l'a découvert que depuis. Et depuis, il y a une avancée majeure pour suivre des individus dans le milieu naturel, c'est celle de l'identification par RFID. Vous connaissez tous les codes-barres. Codes-barres, ça prend du temps, une identification par codes-barres, c'est une fraction de seconde. Là, en quelques millisecondes, un animal qui est équipé sous la peau, donc il n'y a pas d'effet, pas de gène extérieur à ce marquage, d'une capsule de ce type qui pèse moins d'un gramme et qui permet, c'est un transpondeur passif, c'est-à-dire que lorsque l'animal passe au voisinage d'une antenne, l'antenne fournit le champ électromagnétique nécessaire à l'activation de cette étiquette électronique qui va renvoyer un message à l'antenne, qui est également réceptrice, un message fournissant une identité. Ça pèse moins d'un gramme. À partir de là, ça a permis de tester, on l'ignorait, on ne pouvait pas le faire, l'effet du marquage classique avec des bagues. Il s'agit en l'occurrence de manchots royaux. Leur temps de présence dans la colonie, au départ, n'est pas si quasiment différent en période estivale, là où les ressources alimentaires sont importantes. Mais du fait de la gêne hydrodynamique apportée à la marque qui est portée par l'aileron, la présence commence à être moins importante chaque hiver, c'est-à-dire quand les ressources sont moins faciles à attraper par les oiseaux. Et au bout d'un certain temps, on a même un effet cumulé sur l'été, les oiseaux baguets arrivent en retard. En hiver, les oiseaux baguets, au lieu de partir seulement 30 ou 40 jours en mer, comme le font les oiseaux non bagués, vont partir 15 jours de plus. C'est pour vous montrer la conséquence du point de vue de la reproduction. C'est un succès reproducteur réduit de moitié. Et au bout du compte, sur 7 ou 8 ans, cette partie de la colonie qui était suivie par bagage a diminué. Donc, ces nouvelles techniques permettent d'aborder des questions qui font le lien avec ce dont il est question ce matin, comme par exemple déterminer la probabilité de survie des oiseaux en fonction de la température de surface de la mer. 0,3 degrés de température de surface de la mer, il y a une diminution de 10% de la probabilité de survie pour les températures les plus élevées, sans avoir le biais, sans avoir les conséquences du marquage. Et nous avons un travail qui a été fait dans le cadre de l'année polaire qui montre qu'effectivement, le fait d'utiliser des oiseaux marqués biaise les données quant à l'influence des conditions climatiques, c'est-à-dire aggrave cet effet. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la collaboration franco-monégasque, ce qu'on peut aujourd'hui, puisque l'on peut identifier électroniquement les oiseaux, c'est les peser électroniquement. Ils sont identifiés au moment où ils sont sur la balance électronique. Alors, ça paraît simple comme ça, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que, d'abord, pour avoir une bonne précision de peser, on voudrait un plateau très long. Mais si vous avez un plateau très long, vous allez avoir plusieurs individus sur la balance. On veut en peser un à la fois. On veut le peser entre son départ et son retour, pour savoir quelle était son augmentation de poids en fonction de la durée de son séjour en mer par rapport aux conditions climatiques qu'il y a en mer. Donc l'astuce, ça a été trois plateaux. Et puis, il y a un autre problème. Comment faire en sorte que, au niveau de ces passerelles, deux individus ne se trouvent pas face à face? Il y a deux entonnoirs, c'est-à-dire que les animaux qui sont à l'endroit où nous sommes, à partir en bas à droite, vont avoir tendance à aller vers la passerelle du fond et non pas à droite. Vice-versa, c'est l'opposé pour les animaux qui arrivent dans la colonie. Donc voilà ce qui a été installé dans le cadre de cette collaboration franco-monégasque. Chaque plateau a une couleur. Vous voyez un passage lent, avec ce mouvement de dandinement tout à fait caractéristique des manchots, assez grande oscillation, sur 3 secondes et demie, Puis voilà un passage beaucoup plus lent, sans oscillation. Le dernier passage étant très long sur le dernier plateau, alors que les premiers passages avaient été extrêmement rapides sur les premiers plateaux. On peut ainsi arriver à peser avec une grande précision les oiseaux. Et puis, pour conclure, il y a ce développement extraordinaire, cette révolution dans notre discipline, que j'avais annoncé tout à l'heure grâce à la microélectronique, qui est ce que l'on appelle le biologging, qui a d'ailleurs été... Ce mot a été inventé par Yann Repère-Couder, qui est aujourd'hui en France, alors qu'il était au Japon. Vous savez que les Japonais ont vraiment une expertise majeure dans le domaine de la microélectronique. Il a fait sa thèse là-bas. Et donc, vous voyez ici un petit manchot bleu pygmée australien. Je vous invite, si vous avez l'occasion d'aller en Australie, aller à Phillip Island, car l'espace où ils sortent de l'eau a été aménagé pour que les touristes puissent les voir à la sortie de la nuit. Et vous voyez ce logger, qui est l'équivalent d'un micro-ordinateur portable. Donc ce sont des appareils, bien sûr, très coûteux, mais qui permettent d'enregistrer avec toutes sortes de capteurs. Donc il y a un développement extraordinaire à l'actuel, c'est-à-dire que cet animal peut partir en mer, et c'est ce qu'on fait dans les terres australes, et nous permettre d'avoir des informations sur le fait que tel jour il était à 500 km, à 300 mètres de profondeur, évoluant à telle vitesse, changement d'accélération, avec des changements d'accélération pour attraper les proies, et on peut même reconstituer, et c'est ce qui se fait aussi sur d'autres oiseaux, sur les grands albatros, par l'équipe de Chizé. Alors, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire, et je vais donc terminer là-dessus, ici, j'ai pris l'exemple d'un oiseau plongeur parce que j'ai toutes les phases de l'activité. Vous savez que pour répondre aux questions de nos collègues climatologues, c'est-à-dire savoir quelle est la stratégie de l'animal pour essayer de comprendre quelle est sa capacité d'adaptation au changement climatique, il est très utile de pouvoir reconstituer le temps qu'il passe à faire ceci ou cela en essayant de savoir, et ça on le sait avec des GPS munis à ces biologueurs, on arrive à le localiser, et il s'agit de savoir comment il peut éventuellement faire face aux conséquences des changements climatiques. Et en ayant des animaux qui, eux, ne sont absolument perturbés, n'ont pas ces appareils, mais qui sont suivis seulement par RFID, on a des animaux contrôle qui nous permettent de savoir s'il y a un bien introduit par le tout petit appareil qui est sur le dos de l'animal. On a pris l'exemple d'un fou du Cap, c'est un des travaux qui avait été fait en collaboration avec David Grémillet. C'est un accéléromètre. J'ai laissé les termes anglais heaving and surging, c'est l'équivalent de roulis et tangage, si vous voulez, pour les mouvements d'accélération qui sont mesurés. Et donc, selon les enregistrements réalisés, on peut savoir que l'animal, à un moment donné, était en train de décoller, qu'il était ensuite en train de battre des ailes ou en vol plané ou éventuellement en train de plonger, jusqu'à quelle profondeur, car on a aussi, bien sûr, la profondeur. Donc voilà une discipline qui est en plein essor, qui, je crois, va révolutionner notre capacité à comprendre, et je crois que ça introduit les travaux qui vont être, les résultats des travaux qui vont être présentés, vont nous permettre d'avoir une bien meilleure compréhension de comment les animaux peuvent ou non, et jusque dans quelles limites, faire face aux changements climatiques.
Vous venez d'écouter les interventions d'Yvon Lemao, membre de l'Académie des sciences, Claude Lorius, président du Comité français de l'Académie des sciences pour l'organisation de la 4e année polaire internationale, ainsi que d'Éric Orsena de l'Académie française, lors de la clôture de la 4e année polaire internationale qui se déroulait les 14 et 15 mai 2009 au Sénat et au Collège de France. Vous pouvez également écouter les 4 autres retransmissions de ce colloque sur le site de Canal Académie. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.